20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. On le sait, plus de 70% des objets mayas, aztèques ou incas passant dans les salles des ventes de par le monde seraient des faux. Le chiffre est bien entendu vertigineux et il en va probablement de même pour bien d'autres civilisations. Le faux est inhérent à l'archéologie. Loin des enchères, le contrefait, l'apocryphe ou la fraude concernent tous les champs du domaine et cela dès la genèse de la discipline archéologique. Ici, les faussaires, archéologues, peuvent être de tout poil, parfois cachés derrière l'honorabilité, tel ce grand chercheur japonais, démasqué en train d'introduire de faux objets dans sa fouille. Ainsi, le faux, tout le monde y pense, mais nul ne l'évoque, hormis un archéologue, Vaison de Pradennes, qui publia en 1932 « Les fraudes en archéologie préhistorique », un ouvrage magistral, depuis longtemps introuvable. Aujourd'hui, l'incunable est réédité aux éditions Jérôme Millon et à défaut d'inviter son auteur, Vaison de Pradennes, Jean-Paul Demoule. Bonsoir.
Bonsoir.
Archéologue, proto-historien, professeur à la Sorbonne et à l'Institut universitaire de France, ancien président de l'INRAP, vous vous intéressez à l'escroquerie archéologique, sa sociologie. Y aurait-il plus de faux en archéologie que dans d'autres disciplines ? Peut-être puisqu'elle travaille sur la matérialité du passé, notamment les objets ?
Oui, on peut distinguer deux grandes catégories de faux, mais qui se recoupent en partie. Il y a effectivement les faux à motifs financiers. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de faux précolombiens dans les musées. C'est pas très difficile à faire. Mais en revanche, on peut les démasquer, mais ces analyses par thermoluminescence, c'est un peu coûteuse. Et puis il y a les faux qu'on pourrait qualifier en gros d'idéologiques, voulant démontrer une thèse. Bon, les plus célèbres, évidemment, c'est les reliques des différentes religions, mais d'autres aussi, comme le célèbre homme de Piltdown, qui était au moment où on cherchait le chaînon manquant. Mais on peut trouver des intermédiaires entre ces deux grandes catégories.
Et l'archéologie, travaillant sur les objets, c'est assez facile en général. C'est peut-être pour ça qu'on a pas mal de faux.
De faire des faux, oui, mais il faut encore savoir les faire et il vaut mieux qu'on ne puisse pas complètement les démasquer, sachant que les méthodes avancent. Donc maintenant, tout ce qui est de nature organique, ossements, bois, etc., peut être démasqué par le carbone 14. Tout ce qui est céramique peut l'être par la thermoluminescence, mais ce qui est en pierre, par exemple, peut pas être daté. On date uniquement l'âge géologique de la roche, qui est en général de plusieurs dizaines de millions. Donc, ce n'est pas toujours facile à prouver. Cela dit, il faut distinguer l'opinion des archéologues, qui font leur opinion assez rapidement quand ça tombe dans le champ de leur méthode, et puis celle du grand public, qui aime qu'on lui raconte des histoires, et qui même, quand on va prouver que c'est faux, va continuer à le croire. Aussi bien pour les reliques, par exemple le Saint-Suaire de Turin est parfaitement daté par le carbone 14 du Moyen-Âge.
12-13e siècle, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, qui est la période où on a les sources écrites, où l'évêque de Troyes se plaint de ce faux. Le pape, qui est apparenté au comte de Champagne, qui en tire beaucoup de bénéfices, le fait taire. Même si c'est pas plus un problème pour les archéologues, et pour aussi beaucoup de croyants, néanmoins ça va rester indéfiniment, quoi qu'il arrive.
On est dans la croyance. Avant cette émission, j'ai fait un petit test auprès d'archéologues. Aucun d'entre eux ne connaissait ce livre, visiblement tombé dans l'oubli, alors qu'il est une sorte de bible du faux en archéologie.
Oui, bien sûr. Moi, comme cette question des faux m'a toujours intéressé, j'avais découvert quand j'étais encore jeune chercheur à la bibliothèque de l'université de Sarrebruck, qui avait récupéré les fonds de Mortillet, et effectivement, il était ensuite peu connu. Vaison de Pradennes, en plus, qui n'était pas archéologue de formation, mais qui était ingénieur, mais qui était quelqu'un d'extrêmement brillant, est mort accidentellement, et toute sa famille, à l'âge d'une cinquantaine d'années, à la fin des années 30, à cause d'une histoire de chauffage mal réglé. Donc ça aussi raccourci sa carrière et sa renommée.
Qui est Vaison de Pradane, un pionnier de l'archéologie française, du temps où l'archéologie était une discipline d'amateurs?
Oui, enfin, du moins plutôt l'archéologie du territoire métropolitain, puisque le premier institut archéologique quasiment du monde, c'est l'école française d'Athènes en 1846, que dans les universités on enseigne l'archéologie noble, l'Orient, la Grèce et Rome, mais effectivement l'archéologie du territoire métropolitain, à part les Romains, est quelque chose qui est un peu, qui est même beaucoup délaissé et qui va être essentiellement une archéologie d'amateurs jusque dans les années 1970.
Je le disais, le faux est inhérent à l'archéologie, et cela dès la genèse de la discipline. Aux origines de la préhistoire, une fausse mandibule, l'affaire de Moulin-Quignon dans la Somme.
Oui, c'est une très belle.
C'est une histoire édifiante.
Oui, c'est une très belle histoire puisque Boucher de Perthes, qui dirigeait un service de douane dans la Somme, s'intéressait à ces antiquités dites antédiluviennes et va publier des volumes. Mais il va s'attirer en tant qu'amateur et provincial un peu le scepticisme plus ou moins courtois des milieux académiques parisiens. Et c'est seulement en 1859 qu'une commission de géologues britanniques vont authentifier ces découvertes de biphases, donc d'outils en silex datant de ce qu'on appelle maintenant l'âge Léen, c'est à 500 000 ans, 600 000 ans, associés à une faune très ancienne et disparue. Donc c'est établi, mais il manquait toujours des humains. Et les ouvriers, toutes ces trouvailles sont faites dans des carrières de gravier qui extraient la pioche et à la pelle et au tombereau par des ouvriers. Et Boucher de Perthes distribue des petits pourboires en échange des découvertes. Et donc les ouvriers vont rapidement comprendre que ça peut avoir un intérêt. Boucher de Perthes leur demande aussi, notamment s'il y a des restes humains. Et on va donc découvrir cette mâchoire qui va être un peu vieillie, un petit peu polie, qui va passer pour la première preuve d'une association avec des humains. Et comme on ne sait pas à l'époque à quoi ressemblaient les humains, on sait maintenant que c'est des Homo erectus, eh bien cette mâchoire va être la preuve et ça va durer un certain temps.
C'est un moment extrêmement important. On est à l'époque de Darwin, le début de l'évolutionnisme. On est sur l'ancienneté de l'homme, donc les enjeux sont capitaux.
Oui, absolument. C'est une remise en cause de la lecture non littérale qui est punie d'excommunication jusqu'au début du XXe siècle. Après, on va admettre qu'il faut prendre les choses d'une manière symbolique, beaucoup plus large, etc. Mais à cette époque, c'est effectivement presque dangereux.
Alors bien sûr, cette mandibule humaine, elle provient d'un cimetière voisin d'Abbeville. Chose curieuse, ce faux fait avancer la science et l'ancienneté de l'homme préhistorique antédiluvien est presque reconnue.
Oui, à ce moment-là, puisque c'est la première fois qu'on a de l'humain et pas seulement des silex et des animaux disparus. Et ça va plus être remis en cause et ensuite les trouvailles vont s'accumuler.
Durant les années 1860-1930, le faux n'est-il pas lié à la jeunesse de la discipline archéologique, d'une science en pleine gestation? Vaison de Pradane, par exemple, le pense?
Oui, bien sûr, parce que il remarque dans son livre qu'en général les faussaires sont plutôt des amateurs. Il y a quelques hommes de science dans certains cas particuliers. Vous citiez ce paléolithicien japonais qui a été pris sur le fait, filmé et qui a dû faire amende honorable à la japonaise. Mais c'est relativement rare chez les scientifiques. En revanche, tous les gens un peu curieux de ces choses vont fabriquer des faux pour être reconnus pour différentes raisons, y compris financières, comme on disait au début. Et la discipline n'est pas encore assez structurée pour pouvoir immédiatement faire fonctionner des mécanismes de contrôle. Mais après tout, les fraudes en biologie et dans d'autres domaines, à notre époque où il y a aussi une forte pression académique, financière existe également.
L'affaire de l'homme de Piltdown est aussi tout à fait explicite. C'est un grand tournant aussi dans la recherche et dans le faux.
Oui, puisque tout le monde savant cherche le chaînon manquant, comme on dit, entre le singe et l'homme. Ce qui est une vision complètement réductrice du darwinisme, parce que nous ne descendons pas des singes, nous sommes des cousins des singes. On s'est séparés de nos cousins il y a 8 à 10 millions d'années. Mais à cette époque-là, c'est comme ça qu'on voyait les choses. Donc on cherchait ce chaînon manquant. Et en 1912, dans le sud de l'Angleterre, on va effectivement trouver un crâne et une mâchoire qui ont des côtés très archaïques et qui, pendant 50 ans, vont faire autorité dans la discipline. C'est le Eoanthropus, l'homme de l'aurore. Et dans le grand livre de Marcelin Boule, par exemple, qui va faire référence dans toute l'entre-deux-guerres, on a une description soigneuse de l'homme de Piltdown. Et puis, les années 50, on découvre la méthode du carbone 14 et on s'aperçoit que le chaînon manquant, c'est une mandibule, une mâchoire inférieure d'orang-outan un peu retravaillée et puis un crâne moderne, médiéval ou quelque chose comme ça. Et effectivement, l'affaire tombe, mais en général, dans presque toutes, mais il y a quelques exceptions, dans presque toutes les affaires de faux, on finit toujours par identifier le faussaire. Et là, pour l'homme de Piltdown, on n'a jamais su, et le paléontologue américain Gould a même supposé le vénérable Teilhard de Chardin, qui à l'époque est encore débutant dans la carrière et qui aurait pu faire une espèce de farce qu'il aurait ensuite dépassé. C'est absolument pas prouvé, mais ça reste.
En tout cas, c'est une supercherie entre scientifiques.
Oui, dans ce cas-là, oui, tout à fait, sur un enjeu scientifique pointu qu'un amateur n'aurait pas pu réaliser.
Alors, Teilhard de Chardin, bien sûr, a été un moment, on a pensé qu'il pouvait être coupable. On a pensé aussi, justement, à Conan Doyle, qui habitait justement près de Piltdown, et qui aurait pu glisser ce faux.
Oui, il y a eu en général, on suppose plutôt les gens qui ont associé à les découvertes Dawson, etc. Mais de toute façon, on n'a pas de preuves et on n'est sans doute pas prêt d'en avoir. Mais en tout cas, c'est pas un faux pour lequel des gens diraient si, c'est peut-être vrai. Tout le monde est d'accord que c'est faux.
Passons un instant sur un apocryphe. Nous savons que nombre de textes de la Mer Morte, par exemple, sont totalement faux. Mieux, évoquons Vrain Lucas, faussaire de génie, qui vendit à l'académicien Schall des textes de Pascal, Galilée, sans oublier une correspondance épistolaire de César, Cicéron et même de Vercingétorix, le tout sur papier Bible avec une fleur de lys.
Oui, écrit en vieux français la plupart du temps, il y a Jeanne d'Arc, Charlemagne, etc. Et c'est très étonnant comment un éminent mathématicien, Schall, il y a un théorème de Schall, a pu se laisser berner à ce point. Il y a eu un livre récent d'ailleurs sur cette escroquerie.
On peut même se demander qui est le coupable, le faussaire ou celui qui a été dupé. Visiblement, Schall était tellement désireux d'acquérir donc des textes, on peut penser que c'était lui qui avait suscité donc les faux.
Il a alimenté, et Vrain Lucas, voyant que ça marchait sans vouloir révéler ses sources, donc Schall le pressait sans arrêt pour en avoir plus, et le malheureux Vrain Lucas a été, je crois qu'il y en a 2000 à peu près de faux. C'était devenu une machine à faire les faux.
Parmi les faux objets, signalons les iconolithes, sculptures de faux fossiles. Là, on est proche de l'art brut.
Oui, souvent c'est il y a quelque chose d'artistique en même temps dans un certain nombre de ces réalisations, et c'est assez fascinant. C'est à distinguer d'un autre type de ce qui n'est pas vraiment des faux, ce qu'on continue d'appeler les pierres figures, c'est-à-dire des gens qui vont trouver que des formes naturelles en fait sont des sculptures volontaires, et on trouve ça justement chez Boucher de Perthes, qui publie plusieurs planches de pierres figures qui sont des silex, effectivement, de forme complètement naturelle, mais qui peuvent évoquer des choses. Et récemment, un savant disparu, le docteur Baudouin, vendéen, il y a 100 ans, avait déposé à l'Académie des sciences le récit de sa découverte. Et tous les 100 ans, pile, l'Académie des sciences ouvre les plis cachetés avec les découvertes. Et donc, on m'a demandé d'expertiser. Effectivement, on a n'en a pas vraiment retrouvé, mais d'après les descriptions et d'après les collègues vendéens, il s'agissait plutôt de pierres de ballast éclatées par le passage des bateaux. Mais c'était une discussion qu'on trouve régulièrement dans le bulletin de la Société préhistorique française dans les années 20.
Et puis il y a les vrais faux, les fossilex bouillis à la lin de Flint Jack par exemple, donc un savoir très au point.
Oui, oui, oui.
Et qui inonde toutes les antiquités d'Angleterre.
Oui, que Vaison de Traden relate assez bien.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Il y a bien sûr aussi, Jean-Paul Demoule, les fausses antiquités des cités lacustres, les fausses momies, tout y est. Il y a aussi la tiare de Saïta Farnès, bijou absolument extraordinaire de environ 500 grammes d'or.
Oui, c'était un très habile orfèvre d'Odessa qui a réussi à le vendre, et c'est Salomon Reynac, très bon archéologue de formation classique, donc pas vraiment préhistorien, qui l'a fait acheter. Il y a déjà maintenant 5 ans une très belle exposition au musée de Neuchâtel, le Laténium, et ça s'appelait l'âge du faux, et il exposait un certain nombre de ses trouvailles. Donc il y avait la tiare de Saïta Farnès, il y avait la mâchoire de Moulin Quignon, et il y a un assez beau catalogue sur ces questions.
Et cette tiare a été achetée par le Louvre?
Oui, absolument, sur les conseils et les recommandations de Salomon Reynac en tant que spécialiste de l'art gréco-scythe.
Reste un dossier dont Vaison Praden ne parle absolument pas, une étonnante histoire qui ne trouvera peut-être jamais sa fin.
Oui, au fond, tout ce qui est en creux dans le livre d'André Vaison de Praden, c'est l'affaire dite de Glozel. C'est-à-dire en 1924, un jeune paysan et son grand-père labourent un champ, et dans la saga officielle, la vache tombe dans un trou, et ça serait une tombe, et petit à petit vont sortir toutes sortes d'objets aidés par un médecin de Vichy qui à la fois montre des objets de style paléolithique, des gravures de rennes, d'autres de style néolithique, puisqu'il y a des poteries, il y a des sortes d'idoles hermaphrodites, et puis il y a une écriture qui ressemble beaucoup à du phénicien sans en être, et qui recouvre aussi certaines gravures avec des rennes. Donc ça voudrait dire qu'il y a 15 000 ans, des chasseurs-cueilleurs paléolithiques du Bourbonnais auraient inventé l'écriture tout seul, une écriture ressemblant complètement aux Phéniciens, et puis tout ça aurait disparu sans laisser de traces. Alors il y a eu immédiatement des polémiques très fortes. Les milieux professionnels, notamment les préhistoriens, dont Vaison de Praden, ont très vite conclu au faux, l'abbé Breuil, etc., Bégoin, l'abbé Favret, mais des gens moins au fait, justement, comme Salomon Reynac, qui s'était déjà fait avoir, si j'ose dire, avec la thèse de Saïta Farnès, ont soutenu la chose, ou des gens plus éloignés de la discipline, comme des ethnologues, etc. Alors ça a duré plusieurs années, il y a eu des procès, contre-procès, perquisitions, analyses de l'identité judiciaire, puis après l'affaire est retombée, puis elle est revenue dans les années 70, parce qu'il y a eu des datations de certaines poteries à la thermoluminescence qui ont conclu que ça datait pas de 15 000 ans, mais qu'il pourrait y avoir des choses peut-être romaines, et en tout cas sûrement médiévales, et d'autres parfaitement fausses. Et puis aussi, le mouvement qu'on appelait la Nouvelle Droite s'en était emparé sur la base que c'était les Européens et pas les Sémites qui avaient inventé l'écriture. Donc j'ai participé aux fouilles de contrôle qui ont eu lieu en 80. Qu'on conclut qu'il n'y avait pas de site archéologique, que les objets avaient été introduits, ou du moins qu'il y avait ce qui était certain, c'était des installations de Four de Verrier, et donc on en est là.
Les objets sont toujours conservés dans un étonnant petit musée, figurines, étranges écritures, gravures, un peu tout ça issu d'une civilisation perdue.
Oui, c'est ça, une civilisation non seulement perdue, mais qui, depuis quasiment un siècle, n'a jamais été retrouvée ailleurs, ni en France, ni ailleurs. Et c'est ça qui avait intéressé Vaison de Praden, qui lui concluait en grande partie au faux, en liaison avec l'instituteur qui avait au début un peu apporté des matériaux, de la documentation, et Une de ses motivations, c'est visiblement, en creux, sans jamais évoquer le site de Glozel, de montrer comment fonctionnent toutes ces affaires de faux.
Pourquoi ne l'évoque-t-il pas ?
Dans une période extrêmement tendue, donc je pense que Vaison de Pradène ne voulait pas participer directement à la polémique telle qu'elle était. En plus, tous les journaux, ça faisait la une des journaux, il y a eu des centaines d'articles, etc. Je pense qu'il voulait montrer justement de manière extrêmement calme et factuelle comment se passaient les histoires de faux, et on voyait que sous tous ces aspects, de bout en bout, ça ressemblait beaucoup à Glozel.
Plusieurs époques, plusieurs périodes ont été évoquées, la préhistoire ou le Moyen-Âge, une officine de sorcière aussi, tellement oui. Le mobilier est étrange.
Oui, c'était le professeur au Collège de France, Camille Julien, donc spécialiste des Celtes, des Gaulois, qui avait émis cette idée que c'était peut-être des objets un peu comme ça, un peu bizarre.
Moi, j'étais rituel.
Voilà, c'est comme vous savez, quand on ne sait pas en archéologie, on dit que c'est cultuel, rituel. Moi, j'étais prêt à y croire parce que je me suis intéressé très tôt à cette histoire, parce que je m'intéresse beaucoup à la sociologie, l'idéologie en archéologie. Mais quand j'ai vu le musée, effectivement, là, vous voyez qu'on a vraiment voulu faire toute une civilisation préhistorique, mais pas très bien faite. Vous avez toute une série de haches polies, mais très mal polies, qui n'auraient jamais pu marcher, une série de harpons magdaléniens, mais très peu crédibles, etc. Donc, on voit bien que la sorcière gallo-romaine ne suffirait pas.
Voici plus de 30 ans, une fouille est menée par des spécialistes à la demande du ministère de la Culture, notamment de Jack Lang.
Oui, bien sûr, parce que à la fois les élus locaux, Vichy, etc., voulaient en avoir le cœur net, puisque ça restait une gloire locale, et ça l'est toujours. Dans le parking souterrain de Vichy, il y a des tablettes de Glozel sur des panneaux routiers. Dans la région, il y a encore les tablettes de Glozel. Le découvreur de Glozel a une école à son nom, etc. Et puis, il y avait pression, ce mouvement dit la nouvelle droite, qui écrivait des lettre ouverte au ministre en disant « Vous refusez la vérité, vous refusez, etc. » Donc Jack Lang a incité le Conseil supérieur de la recherche archéologique à relancer les fouilles. J'ai fait partie des gens qui appuyaient justement, sans penser du tout qu'on allait convaincre, mais en tout cas que le dossier soit clair. On a pu montrer qu'il n'y avait pas de site, que le terrain était trop acide pour que les os s'y conservent, etc.
Qu'est-ce que vous avez trouvé ?
On a essentiellement rien trouvé. C'est-à-dire que dès qu'on est sorti de la zone déjà fouillée, qui est extrêmement bouleversée, on trouve simplement l'humus normal et dessous les sables tertiaires beaucoup trop acides. Mais au moment de la fouille, le seul objet trouvé, c'était un demi-bol dont on a retrouvé l'autre moitié dans l'herbe le lendemain avec un trait de colle qui a pu être analysé et qui est moderne. Mais sinon, on n'a effectivement rien retrouvé de glosé. Glozélien en place.
Est-ce que l'on aurait du glozélien ailleurs ?
Ben justement, non, parce qu'il y a eu... souvent, les gens remarquaient, quand on faisait une objection, peu de temps après, on trouvait la réponse à l'objection. Donc, une des objections, c'est « mais on connaît que Glozel ». Donc, dans les mois qui suivaient, on trouvait un galet glozélien dans un site un peu plus loin. Et donc, il y a eu trois autres sites qui ont été proposés. Et il y a eu des fouilles de contrôle qui ont été faites par un archéologue, Jean-Louis Flouès, qui ont à chaque fois conclu à la négative. Là, c'était en réalité des terrasses de vignes, l'autre c'était un abri souterrain du Moyen-Âge.
Les résultats seront publiés dans une revue plus que confidentielle, la revue archéologique du Centre, c'est un peu dommage.
J'ai rien contre la revue archéologique du Centre, mais effectivement ça a été...
Mais ça n'a eu aucune diffusion.
Ça n'a eu aucune diffusion, c'est une dizaine de pages, et ça tient essentiellement à la pusillanimité du ministère de la Culture, enfin plutôt des hauts fonctionnaires qui... ne voulant pas de vagues, sachant que c'était... un sujet politique, puisque agité par la nouvelle droite, qu'on se rapprochait des élections de 86. Donc on essayait à chaque fois d'étouffer l'affaire. Il y a un gros rapport, mais qui n'a jamais été publié.
Voici 30 ans, une ultime affaire explose au grand jour. La découverte de petites statuettes dans une fouille archéologique. Nous voici devant le dossier des grotesques d'Amiens.
Oui, c'est une très belle histoire parce que ça ressemble beaucoup à Glozel avec des objets étranges, plutôt attachants d'ailleurs pour leur inventivité esthétique et si les faussaires ne s'étaient pas dénoncés l'un l'autre, auraient pu, comme je l'ai écrit, devenir aussi un autre Glozel. Donc c'est deux jeunes gens un peu inventif d'Amiens qui prétendent sur les déblais d'une fouille officielle, montrant donc que la fouille officielle était très très mal faite. C'est toujours l'opposition classique entre l'amateur de génie et la froide science officielle qui essaie de cacher de garder ses certitudes battues en brèche. Donc trouve toute une série des dizaines et des dizaines de statuettes en craie tout à fait originales. Il y a des examens et en particulier le responsable des antiquités préhistoriques de l'époque, là, Jean-Claude Blanchet m'avait signalé, on a regardé au microscope et on a trouvé une bille de stylo à bille. Et donc moi j'étais pour qu'on ne le révèle pas et qu'on laisse l'affaire monter. Mais bon, d'un autre côté, c'était difficile. Et puis surtout, on a été court-circuité parce qu'il y a eu une dispute, comme il y avait un intérêt financier. Ils fabriquaient ça non seulement pour être célèbre, mais aussi pour avoir un peu d'argent. Ils se sont dénoncés et l'un a montré des photos de l'autre en train de fabriquer les fausses statuettes. Donc évidemment, tout était dans l'eau pour ce qui est de la continuité de cette très belle affaire.
On est à la croisée de l'art celtique, du faux et de l'art brut. D'ailleurs, j'ai souvenir que le faussaire rêvait de vivre chez les Gaulois. Les archéologues sont-ils aujourd'hui à l'abri du faux?
Non, pas du tout. Une des régions du monde où il y a le plus de faux et plus généralement de découvertes avec inscription, c'est l'archéologie biblique, parce que c'est à la fois, je reviens sur la classification très très globale, donc parce qu'il y a des enjeux effectivement idéologiques et puis des enjeux financiers. On avait trouvé un reliquaire en pierre notamment où il y avait écrit près de Jérusalem, enfin sans qu'on sache vraiment où. Je suis Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus, qui est en soi-même une formule un peu étrange et pas vraiment habituelle. Et immédiatement, l'Archaeological Biblical Review émanant des milieux américains protestants évangélistes avait dit la première preuve de l'existence de Jésus gravée dans la pierre. Après, on s'est aperçu avec des analyses fines au microscope balayage électronique que l'inscription avait été rajoutée.
Jean-Paul Demoule, merci. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Vézant de Braden, Les fraudes en archéologie préhistorique, qui vient d'être republié aux éditions Jérôme Millon. Enfin, un de vos derniers livres, Les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire, vient donc d'être édité chez Pluriel. Jean-Paul Demoule, vous le savez, le monde de l'orientalisme est en deuil, puisqu'un grand archéologue, Olivier Lecomte, spécialiste des mondes hellénistiques, parthes et sassanides, vient de disparaître. Je souhaitais ici saluer la mémoire de ce chercheur du CNRS, polyglotte et passionné, qui après l'Iran, l'Irak et les Émirats du Golfe, œuvra en Asie centrale, au Kazakhstan et au Turkménistan, notamment sur le site d'Uluk Tepe. Son œuvre restera bien entendu dans l'histoire de l'archéologie orientale et centre asiatique. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Alain Joubert et avec bien sûr la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture sera consacré à la Grèce.